Bonjour, nous sommes le lundi 25 septembre, il est 14h, c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève saison 2 revient et elle est très contente. Pendant 30 minutes cette année encore, tous les 15 jours, nous vous proposons de rencontrer les jeunes talents d'hier et d'aujourd'hui. Vous retrouverez aussi mes bafouillages. Et pour bien commencer, nous allons au théâtre de Belleville où les courbes s'inversent. Bonjour Samuel Valenzi, vous êtes l'auteur et le metteur en scène justement de l'inversion de la courbe, une pièce actuellement à l'affiche du théâtre de Belleville. Et avec vous aujourd'hui, Paul-Éloi Forger, qui est un des quatre acteurs de cette pièce. Et dès le début, j'en profite pour le dire, vous êtes tous les quatre très bons. C'est vous qui êtes venu, vous êtes un peu le héros. Mais on aurait vraiment pu inviter n'importe lequel de votre quatuor. Justement, Paul-Éloi, quand avez-vous voulu devenir comédien ?
Alors, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. ça m'a pris d'un coup de tête à peu près il y a 7-8 ans.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Alors, 21-22, ouais, dans ces eaux-là, quoi. 21-22.
Et vous suiviez une scolarité, entre guillemets, classique ?
J'étais commercial.
Ah oui ?
Donc
c'est amusant par rapport à la pièce, justement.
Exactement, le thème ne m'est pas étranger. Et j'ai un peu pété un plomb, j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai un peu tout balancé. Et un pote était au cours Florent, et oui.
Et vous aviez jamais eu envie avant d'être acteur ?
J'avais jamais fait de théâtre, même, avant. Et la rencontre avec la scène a été un peu saisissante et j'ai jamais arrêté depuis. Voilà.
Et pourquoi vous êtes allé au cours Florent avec ce pote ? Avoir un pote qui faisait les marchés et aller avec lui ?
Je connaissais rien d'autre. Je connaissais pas les conservatoires d'arrondissement, je connaissais pas les autres structures qu'il pouvait y avoir. Et il était là-bas, il m'a dit vas-y, j'ai fait le stage, j'ai été pris au stage, j'ai été pris en première année et ça s'est très bien passé tout de suite. Et depuis, je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier, quoi.
Et vous avez fait le cours Florent, puis une autre école, je crois.
Ouais, j'ai fait 2 ans en fait au cours Florent, et j'ai fait 3 ans à l'ESAD, l'École supérieure d'art dramatique de Paris. Donc, qui est une école nationale.
Donc là, vous jouez maintenant depuis 3-4 ans ?
Exactement, en fait, on avait créé une compagnie avec des copains, là où j'ai rencontré Samuel justement il y a 5 ans.
C'est ça.
On a monté un premier spectacle ensemble, dans lequel Samuel était acteur à l'époque, et narrateur et créateur musical. Et on a joué un spectacle, 2 spectacles jusqu'à l'année dernière. Et voilà, et depuis on a monté. Voilà.
Vous, Samuel Valenzi, quand on lit votre parcours, alors vous avez fait une licence de philo, vous avez fait HEC et maintenant oui. Vous êtes metteur en scène.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé ?
Pourquoi devenir saltimbanque quand on est si bien parti dans la vie ?
C'est vrai, mon père a beaucoup de regrets, vous pourrez parler longtemps avec lui.
Non, en fait, ce qui
s'est passé, c'est que je faisais de la musique depuis très longtemps. Quand j'ai terminé la classe prépa, les cours de comptabilité d'HEC m'ont un petit peu déprimé. Et du coup, je suis allé m'inscrire en licence de philo. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est d'aller m'inscrire dans la comédie musicale de l'école. Et c'est là que j'ai découvert le théâtre, donc assez tardivement, comme Paul-Éloi, à la vingtaine. Et j'ai été nommé président de cette comédie musicale. Puis j'ai commencé à faire des castings. C'est là que j'ai rencontré la compagnie En eau trouble dans laquelle je suis rentré. Puis après, j'ai fondé ma propre compagnie et il s'avère que par un curieux hasard, au moment où tout le monde doit choisir son stage d'année de césure à HEC, j'ai rencontré Philippe Tesson parce que mon père, qui est un ponte de la culture, il est vétérinaire, soigne ses chats. Et du coup, j'ai travaillé 1 an à la production du théâtre de poche et c'est comme ça que je suis complètement rentré dedans ou que j'ai fini de rentrer dedans.
Et tout en continuant vos études ?
Oui, tout en continuant mes études.
Et là, à ce moment-là, vous aviez plutôt envie d'aller dans le management du théâtre ou déjà vous avez fait semblant de c'est-à-dire tout le monde, je vais faire du management de spectacle en vous disant en fait j'écris en cachette.
Ça a été un petit peu une découverte, le théâtre en général. Sans me dire que j'allais choisir quelque chose en particulier. À l'époque, je faisais de la production, en même temps je jouais, en même temps je faisais de la musique pour les spectacles de la compagnie En eau trouble de Paul Balaguer. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était l'artistique. Le déclencheur ayant été que j'ai produit pendant 2 ans Merlin, qui était un spectacle de 9 heures de Paul Balaguer qui s'est joué au Théâtre du Soleil et dans lequel Paul-Éloi jouait. Et à la fin de ça, je me suis dit définitivement, je ne veux pas être producteur. Et j'ai eu une rencontre.
Pourquoi ? C'était trop compliqué, c'est trop de contraintes, c'est pas assez artistique peut-être par rapport à ce que vous avez envie de faire.
La production, c'est un petit peu le métier le plus ingrat qu'on puisse faire dans le théâtre parce que quand tout va bien, on ne s'en rend absolument pas compte et dès que quelque chose va mal, tout le monde est au courant. Donc c'est pour moi, c'était pas une zone confortable et puis j'avais vraiment besoin de l'artistique, c'est ce qui me manquait le plus.
Alors avec d'autres, vous avez créé une compagnie. Pourquoi vous avez eu envie de créer une compagnie plutôt que de rester dans celle où vous étiez ?
Bah en fait, c'est très simple. Dans la compagnie où on est, la compagnie En eau trouble, il y avait vraiment une direction forte qui était celle de Paul Balaguet, qui crée des univers qui sont absolument magiques, que ce soit Merlin ou les créations qui sont en cours, mais qui ne sont pas ceux que j'avais envie de défendre. J'avais vraiment envie de travailler dans le social et dans d'autres univers.
Vous aussi, Paul Éloi, je vois que vous approuvez.
Ah oui, moi, les deux univers me fascinent.
Vous, en fait, pouvez être dans plusieurs de compagnies à la fois, ça vous gêne pas.
Moi, j'ai vraiment cette souplesse-là de l'interprète, on va dire, de pouvoir être partout.
Le soir, je suis parti courir. J'ai couru comme si je fuyais. Ma vitesse moyenne était élevée et, comme à chaque fois, j'ai souffert dans le second quart d'heure. Mon souffle était plus lourd, mais j'accélérais. Même si mon corps ne voulait pas accélérer. Je sortais de ma zone de confort. Je me demandais un peu plus et encore un peu plus. Je n'écoutais pas la douleur. Mais à l'attaque de mon heure de course, je me suis senti mieux. L'endorphine s'est répandue dans tout mon système nerveux. J'avais plus mal. J'avais plus peur. J'avais plus l'impression de fuir. J'étais léger et heureux. J'avais oublié la musique, la ville. J'avais oublié qui j'étais, j'avais oublié ce que je faisais, j'avais oublié mon boulot, j'avais oublié mon père. J'avais même oublié que j'étais en train de courir. J'étais absent. Mais au 15e kilomètre, alors que j'effectuais mon sprint final, un coureur que j'avais jamais vu m'a dépassé. Il m'a dépassé. J'ai voulu accélérer, mais j'ai senti un pincement dans la cuisse. Rien de grave. Puis, je me suis imaginé blessé. Un frisson très léger a glissé le long de ma colonne vertébrale. Je crois que j'ai eu peur. Je crois que j'ai eu peur de l'inversion de la courbe. Je crois. Je vous ai jamais dit ça.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de la pièce qu'on peut retrouver sur le site du théâtre de Belleville. C'est très, très bien fait. Vous venez de me dire que vous l'aviez fait avec une trottinette ?
Oui, absolument, avec une trottinette et un stabilisateur. Aujourd'hui, c'est assez miraculeux. Avec très peu de moyens, on peut faire de très jolies choses. Donc, on en a profité.
C'est votre apocalypse now à vous, quoi. Au lieu d'avoir des rails de trafic, vous avez pris une trottinette.
Peut-être pas quand même, mais en fait, en parallèle de la compagnie, je travaille dans la vidéo. Donc, ça m'inspire beaucoup. Et puis, je me suis dit que c'était un très beau moyen pour communiquer sur le projet.
Alors, ça correspond à un moment clé de la pièce, qui est un peu le moment de bascule, où Paul Éloi, qui dans la pièce est un jeune cadre à qui tout réussit, réalise qu'il n'est pas le meilleur. Comment vous le décririez, vous, ce personnage, Paul Éloi ?
Assez bon élève, en fait, avec des objectifs. Mmh. Voilà, de s'occuper de son père. Et donc, il a... quelque part pas le temps, mais c'est pas parce qu'il est pressé, c'est parce que il a pas vraiment le choix.
Ouais, l'envie de bien faire le déborde, en fait.
Donc en fait, voilà, comme il veut tout bien faire, il fait tout bien, presque trop bien, et du coup, ses ambitions le dépassent presque.
Et il est obsédé par les chiffres. Hein.
Il est obsédé par les chiffres. La performance, le sport et l'entreprise, tout se croise, tout se mêle, quoi.
Est-ce que c'est compliqué parce que le personnage porte votre nom ? Est-ce que vous identifiez à lui ? D'ailleurs, je crois qu'il porte le nom de chacun des acteurs.
Ouais.
Oui.
Est-ce que c'est perturbant ça à jouer ? Quand on vous appelle, vous n'avez pas un prénom qui est courant. Donc quand on vous appelle Paul Éloi, vous savez que c'est vous. Est-ce que du coup, c'est plus difficile de se détacher du personnage ?
Personnellement, là, je, pour l'instant, j'ai mis assez de distance avec cette histoire pour ne pas avoir besoin de me détacher spécialement sans que ça me fasse souffrir ou quoi que ce soit. Mais effectivement, je pense surtout à mes parents qui sont venus me voir. Ça leur a fait un peu bizarre. Effectivement, tout ce qui m'arrivait, ils avaient peut-être un petit peu de mal à se distancier, mais ça ne les a pas empêchés d'apprécier quand même la chose. Mais non, franchement, ça va.
D'accord.
Franchement, ça va.
Vous avez l'année haute participé à plusieurs créations, et vous, Samuel, c'est la première pièce que vous avez écrite. Qu'est-ce qui fait que, on a déjà beaucoup parlé de votre envie de créer, mais vous aviez particulièrement envie de créer, vous pouvez, parce que l'artistique, on peut faire des lumières, on peut faire
absolument,
des effets spéciaux.
Oui, j'avais particulièrement envie de créer. J'ai toujours beaucoup écrit, même des petites choses plutôt dans mon coin, on va dire. Mais en fait, j'ai eu une suite d'éléments déclencheurs qui ont été la fin de Merlin, la perte d'un proche et le fait de voir une situation délicate en entreprise et enfin à peu près au même moment, une rencontre très forte avec les Petits Frères des Pauvres, qui m'a donné follement envie de me dire, en fait, pour les amis du théâtre, je suis celui qui a fait HEC, pour mes copains d'HEC, je suis un peu celui qui fait du théâtre, et je me dis, pourquoi je ne mêle pas ça dans un seul point de vue et de créer avec ce regard-là sur le monde qui est intéressant, qui est parfois froid, qui est parfois terrifiant, mais qui est intéressant.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que comme vous avez fait HEC, quand vous parlez d'entreprise, vous savez de quoi vous parlez, parce que moi, je trouve que très souvent, dans la création, que ce soit le théâtre, le cinéma, voire la littérature, il y a des gens qui veulent, il y a des créateurs qui veulent parler d'entreprise et qui le font parfois de façon un peu caricaturale. Vous, par exemple, vous jouez beaucoup sur le langage managérial, mais on voit que vous l'avez connu et que vous l'avez vu de l'intérieur. Et vous aussi, donc, du coup, puisque vous étiez commercial tous les deux.
Un petit peu, ouais.
Enfin, vous, c'est-à-dire Paul Éloi. Parce que si je monte du doigt, personne ne sait à qui je parle.
Non, mais bien sûr, mais pour cette histoire de langage, il y a une poésie qui se dégage, en fait, de ça. C'est surtout ça, en fait, qui est jouissif aussi pour l'acteur, quoi.
C'est intéressant parce qu'en fait, on est dans un langage très, très quotidien dans le monde de l'entreprise et qui, en même temps, quand on débarque là-dedans, paraît très fort, très étrange, très étonnant, comique.
Oui, il y a une force comique de son gars.
C'est quelque chose dont on a toujours parlé avec Paul Éloi. On est d'accord sur le fait que les films qu'on admire le plus, alors j'ai vu Petit Paysan récemment, on parle souvent de Whiplash entre nous, par exemple, le film de Damien Chazelle avant La La Land, ce sont des films où, en fait, il y a un niveau de technicité très fort quand les acteurs parlent entre eux. On sent qu'on est dans un univers qui est très marqué. Quand ils parlent de musique, même moi qui suis musicien, j'y comprends rien. Et en même temps, les enjeux sont tellement clairs qu'on est pris dans la machine à fond avec eux. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui est intéressant et sur lequel on voulait travailler aussi.
Est-ce que vous, Samuel, donc, vous avez écrit le rôle pour Paul Éloi, puisque vous connaissez depuis longtemps? Est-ce que quand vous écriviez, vous pensiez à lui ou pas? Parce qu'il est tellement bien dans le rôle, je ne vais pas le flatter, mais on y croit du début à la fin.
Ouais, il y a une espèce de...
Est-ce que son énergie, vous la sentiez? Vous saviez qu'il pouvait faire ça ou...
On est tous les deux deux personnes très, très physiques, très physiologiques. Je veux dire qu'on est... On est deux personnes avec beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui nous disent assez fréquemment, même physiquement, qu'on pourrait être de la même famille. Et c'est vrai que je me sens très proche de Paul Éloi. Donc, quand j'ai écrit, j'ai d'abord pensé à lui. Après, il y a une volonté qui est simple, c'était de dire, comme ces accidents de vie et cette chute absolument incroyable que j'ai constatée auprès des Petits Frères des Pauvres peut arriver à n'importe qui. Alors, ça peut même arriver au comédien qui est au plateau. Et le fait de donner le nom, c'était le symbole de ça. Donc voilà, il y a une double chose. Déjà la proximité qu'on a, le fait que j'ai écrit pour lui, mais aussi parce que c'était une manière de faire une allégorie sur ce thème.
Oui, parce que physiquement, vous faites beaucoup de vélo. Ouais. Je me suis demandé, vous faites vraiment du vélo sur scène? Vous n'avez aucun problème de respiration?
On n'a pas mis la résistance à fond sur le vélo, ce qui fait que je ne pédale pas dans le vide non plus, mais je ne pédale pas si fort que ça.
Quand même, vous faites physiquement, vous en donnez, quoi.
On a travaillé en répétition, quoi. Franchement, c'est de l'entraînement. Le souffle, il faut essayer de descendre le souffle, quoi, pour que ça altère pas la parole. C'est pas facile, hein. Il y a des moments où je suis vraiment essoufflé, où vraiment c'est pénible, mais ça donne du jeu. En fait, aussi, ça donne un lâcher prise. J'essaye d'en profiter, en fait. Mais à la base, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vélo. Je fais d'autres sports, mais c'était pas du vélo, donc j'ai faire le vélo.
Qu'on explique, quoi, c'est que le personnage régulièrement va à la salle de sport où il fait des entraînements, comme il est directeur des ventes, et où il doit en permanence vendre plus, et il veut aller toujours plus loin, que ce soit dans les ventes ou en vélo ou dans le club de sport.
Les objectifs, du sport comme de l'entreprise se mêlent en permanence, et en fait. Où qu'il aille, on lui demande toujours plus. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. C'est la façon dont, en entreprise, dans le sport, dans nos vies intimes, ou même dans nos loisirs, on a tendance à récupérer notre capacité à nous parfaire, le fait qu'on soit absolument, absolument perfectible. Et tout le monde en joue, tout le monde nous dit « vous pouvez devenir plus ».
To share, you'll never ever
c'était Syndrome Stockholm, extrait de l'album Somme, car oui, il existe encore des albums en 2017, de Xavier Boyer, le chanteur de Tahiti 80 qui tente l'aventure en solo.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Samuel Valenzi et Paul Éloi, j'ai oublié son nom, Paul Éloi,
Forget.
à propos de la pièce de théâtre, l'inversion de la courbe qui passe actuellement au théâtre de Belleville. On en a beaucoup parlé, mais on n'a pas dit on n'a pas dit le centre de cette pièce, qui est finalement l'histoire du déclassement social.
Oui.
Et vous, Samuel Valenzi, dans le dossier de presse, dans la note d'intention qui accompagne le programme, vous dites que vous avez eu raison de plus décrire les raisons de notre silence autour du déclassement social que d'en décrire les mécanismes.
Oui, c'est ça. En fait, on est tellement omnibulé par la productivité au quotidien qu'on se rend compte assez rapidement que parler du fait qu'on est plus productif, c'est quelque chose de très difficile. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué auprès des petits frères des pauvres que j'ai rencontrés, c'est que quand ils ont vécu le pire, ils n'en ont pas parlé autour d'eux. Parce qu'il y a une espèce de tabou, et de répondre à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» par rien, ça vous déclasse immédiatement. Du coup, parce qu'ils sentent qu'on ne veut pas les voir, ils s'isolent d'autant plus et leur situation s'aggrave.
Et justement, en quoi consistait cette collaboration avec les petits frères des pauvres? Au départ, vous y êtes allé parce que vous cherchiez entre guillemets du matériel pour une pièce, ou parce que c'est volontairement, vous travailliez déjà avec eux et vous avez eu envie, à l'inverse, d'utiliser ce matériel pour écrire?
J'ai toujours travaillé avec les petits frères des pauvres sur les productions sur lesquelles j'ai travaillé, que ce soit au Théâtre de Poche ou Merlin, en donnant des places aux petits frères. Mais la relation n'était jamais allée plus loin, c'est-à-dire que c'était bonjour, bon spectacle. Et c'était à peu près tout. Et puis Claude Guillard, qui s'occupe de l'un des groupes culturels de l'association, m'a proposé de venir avec Paul Éloi rencontrer les petits frères. Et là, on a rencontré des personnes qui étaient extrêmement cultivées, qui parlaient un français parfait, qui étaient souvent d'éducation bourgeoise, etc., qui avaient eu des carrières. Donc on était assez choqués de la rencontre. Et ça a été ça le déclencheur qui m'a vraiment donné envie d'écrire.
Vous, Paul Éloi, vous êtes inspiré des gens que vous avez vus? Est-ce qu'on peut dire que vous savez qu'il y a des gens
un petit peu.
Auxquels vous avez attrapé des choses?
Un petit peu, ouais. J'ai chopé des choses, à mon avis, sans le vouloir. Parce qu'on, du coup, on a fait plein d'ateliers avec des improvisations. On a mêlé les matériaux, on leur a fait lire des passages de la pièce. Donc j'ai entendu des choses qui, à mon avis, se sont imprégnées toutes seules. Et il y a des énergies par rapport au récit. À la fait, comme je suis très narrateur dans cette pièce, quand on a entendu des récits de gens à qui des histoires similaires sont arrivées, l'énergie dans laquelle il racontait m'intéressait énormément parce que c'est la plus juste, quoi. Et oui, je m'en suis inspiré. Ouais.
Vous, justement, puisqu'on a l'auteur de la pièce, on va en profiter. Samuel Valenzi, vous avez écrit une pièce, votre écriture assez particulière, puisque, comme vient de le dire Paul Éloi, il est à la fois narrateur et en même temps il joue. Donc il est au présent, nous racontant ce qui lui est arrivé.
Oui, il raconte au passé, mais il revient.
Ça a l'air très compliqué, comme je dis, mais alors quand on le voit, c'est très très clair et on ne se perd jamais.
C'est très simple, ça consisterait à dire ce jour-là, je suis arrivé dans l'émission de radio et le présentateur m'a dit quelque chose et à ce moment-là, vous parleriez. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Comment vous est venue cette idée? À quoi est-ce que c'est venu tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché? Et surtout, quelle valeur ça a pour vous?
En fait, l'idée principale, c'est déjà les personnes à qui on a parlé, quand elles veulent bien en parler, elles sont assez à distance. Parce que, si vous voulez, pour ces personnes-là, il y a un pacte social qui a été rompu. Le pacte social qui consiste à dire « quand on veut, on peut », ce qui est la base de tous les discours politiques. Ce pacte-là, comme il est rompu, ces gens-là n'y croient plus. Que ce soit aux hauteurs ou aux profondeurs, ils n'y croient plus. Donc, quand ils vous racontent à la fois leur carrière et à la fois leur chute, ils sont très à distance souvent. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et surtout, j'ai trouvé que c'était la manière la plus juste de raconter parce qu'on ne tombait pas dans le pathos. On ne tombait pas dans la détresse malgré la délicatesse du sujet et tous les pièges qu'il peut y avoir dedans. Donc c'est pour ça que cette distance était intéressante. Et il y a un deuxième élément qui est que toutes ces personnes, quand elles nous racontent tous ces événements qui leur sont arrivés, justement, en font des événements. Des petites choses comme le fait qu'on se blesse en allant courir ou que quelqu'un était meilleur que soi au travail, qui nous arrive à tous en permanence, et on n'y voit pas du tout les signes du déclassement social. Mais vu ce qui leur est arrivé, quand ils regardent les choses a posteriori, ils disent « ça, c'était un événement annonciateur », et je pense que c'est pour ça que ça nous touche tous, parce que ces événements-là, ces tout petits événements, on les vit tous au quotidien.
Ouais, et notamment donc, dans la pièce, il y a ces moments où le moment où Paul Éloi commence à sombrer, à vivre le début de la chute, et vous montrez très bien, très très finement, la manière dont finalement il arrive à en parler à personne. Il y a ce moment où il appelle un de ses amis, Puis je sais pas si je vais raconter toute la pièce, mais il y a une espèce de scène récurrente et cet ami a des propos très définitifs sur le chômage et il n'ose pas lui dire parce que il se rappelle de ce que lui disait avant cet ami. Mmh. Et on se dit peut-être que s'il lui avait parlé, l'autre aurait compris quoi. Parce qu'entre ce qu'on dit en général, les chômeurs, si ça. Et ce qu'on peut éprouver pour ça. Et on s'avère bien qu'il arrive plus à... Ça, c'est quelque chose qu'on vous a raconté ?
C'est pas forcément quelque chose que j'ai entendu dans les récits. C'est surtout qu'en fait, partout, on entend des discours sur la productivité, le fait que les gens qui ne s'en sortent pas ne veulent pas. Il y a des discours qui sont assez radicaux sur le sujet et qu'on a à peine caricaturé. Bon, parfois assez fort, mais l'idée, c'était de dire que c'est quand même très présent, même dans notre entourage. On entend parfois des gens dire... mon Dieu, le trou de la sécurité sociale, mon Dieu, le poids du chômage en France, mon Dieu, les dettes, etc. Et tout ça, en fait, ça participe d'un climat où, quand on est déclassé, quand on se retrouve dans des situations de précarité, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on se dit, ben, on va faire partie du mauvais côté de la balance.
L'un et l'autre, vous avez travaillé, alors j'ai vu ça en préparant l'émission, un spectacle qui a été inspiré de Des souris des hommes de Steinbeck, et on pense... Et là, je me suis dit, mais il y a un lien évident. Et alors, ce qui est d'autant plus amusant, c'est quand vous êtes arrivé ici, vous m'avez dit que c'était à la maison des initiatives étudiantes que vous aviez répété spectacle.
Tout à fait. Oui.
Ouais. Vous y pensiez au lien avec Steinbeck ? C'est un auteur qui vous intéresse et...
C'est un auteur qui nous intéresse puisqu'on l'a beaucoup, beaucoup travaillé et joué. Mais de là à dire qu'il y avait un lien, j'avoue que je n'y ai pas pensé directement.
C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais bien sûr, on était des journaliers qui allaient travailler et tout ça.
Enfin, Steinbeck, c'est quand même l'auteur de la grande crise des années 30. Et on pourrait dire que vous êtes l'auteur de la crise actuelle.
C'est intéressant. Enfin, merci en tout cas du compliment. C'est peut-être un peu beaucoup, mais oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une proximité dans le social.
Après, vous avez une autre écriture. Vous êtes jeune. Et je crois qu'il y a eu le prix Nobel de littérature. Steinbeck, il me semble bien. Donc oui, peut-être vous l'aurez un jour. Je vous le souhaite. Mais
on va faire preuve de patience. Ça, c'est notre première pièce. Donc.
Mais donc, c'est pas la référence que vous avez en tête. Vous aviez quelle référence en tête plutôt ?
En fait, j'avais plusieurs références en tête. J'ai une grande admiration pour deux auteurs et metteurs en scène actuels qui sont Côme de Belsize et Alexis Michalik, dont je trouve l'énergie au plateau absolument extraordinaire. Et je trouve aussi que c'est particulièrement pour Côme de Belsize. Un auteur qui pose beaucoup de questions, mais ne politise jamais son propos, et c'est exactement ce que je voulais faire. Après, il y a des références, un petit peu plus anciennes. Chez O'Neill, par exemple, on trouve déjà dans le théâtre des personnages qui racontent leurs propos en étant à distance, avec une narration comme on retrouve chez House of Cards. D'ailleurs, Kevin Spacey est un grand admirateur d'O'Neill, donc à mon avis, ce n'est pas un hasard.
Vous avez regardé, vous aussi, vous appréciez ce théâtre-là, et vous avez regardé, par exemple, House of Cards avant de jouer ?
House of Cards, oui, je ne l'ai pas regardé spécialement dans cette idée-là, mais je connaissais, et évidemment, le procédé pour un acteur, mais il n'y a rien, c'est un cadeau, en fait.
C'est quoi, c'est de pouvoir s'extraire du personnage ?
C'est ça.
Mais ça doit être épuisant aussi, non ? Parce que vous êtes en permanence entre deux énergies.
C'est fatigant parce qu'en fait, on a beaucoup de ruptures à faire entre le présent et la narration. Mais c'est jouissif parce qu'en fait, on sent bien, quand on est sur scène, qu'on provoque des gros plans, en quelque sorte. Ça ressemble au travail du cinéma, en fait, finalement, où d'un seul coup, quand je me retourne vers le public, je fais un focus, quoi, énorme. Et du coup, je suis complètement... fabricant d'énergie à ce moment-là. Mm-hmm. Je suis comme un metteur en scène presque.
Ouais, c'est un rôle de comédien principal et de metteur en scène un peu en même temps.
Parce que je fais la mise en scène en direct. Je fais parler les gens et je fais le focus et c'est génial.
Alors moi, le soir où j'étais là, le public réagissait, vous répondez parfois parce que vous interpellez, on ne sait pas trop si c'est le public ou les autres acteurs. Ça arrive souvent, ça ? C'est volontaire ?
Ça vous surprend quand ça arrive ? Pas souvent, mais ce soir-là,
ça arrive. Mais c'est... À mon avis, c'est bien aussi de... Moi, j'aime bien quand ça réagit, bien sûr. Parce que parfois, quand on est en adresse comme ça, permanente, il peut y avoir 10 minutes de suite où il n'y a pas un bruit dans le public. Et parfois, on est un peu perdu.
C'est un peu angoissant.
Est-ce qu'ils sont encore là et tout ? Et bam, ça répond d'un seul coup. Et c'est bien sûr, c'est rassurant, en fait. De
ça relance l'énergie.
Ouais, bien sûr.
On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais dans le spectacle, vous mettez en parallèle le monde de l'entreprise et celui d'une salle de sport en montrant finalement la similarité des mécanismes à l'œuvre. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux travaux d'un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le culte de la performance. C'est ça que vous voulez dénoncer ? Je ne sais pas si vous voulez dénoncer quelque chose. En tout cas, que vous voulez montrer, c'est à quel point on est immergé dans ce culte de la performance en permanence.
Je veux le montrer encore une fois. Mon but, c'est pas de politiser du tout mon propos. C'est vraiment de montrer. Mon regard, ma sensibilité sur ce qui se passe et le fait que moi, de temps en temps, je me sens, je me sens un petit peu pris à la gorge par ça et j'aurais pu aller plus loin. Je veux dire, aujourd'hui, on ne vous dit pas seulement qui aime vos photos sur Facebook, on vous dit le nombre de likes. Et il y a une course au nombre de likes. Et quand vous allez à la salle de sport, on vous dit qu'il faut vous fixer des objectifs, les atteindre et les dépasser. Et quand on est en entreprise, on nous impose les mêmes rythmes. Et par moments, les objectifs ne sont pas bien clairs.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que c'est pervers, qu'il y a des objectifs cachés, enfin, qu'il y aurait...
En fait, la vraie question, c'est pourquoi faire ? S'il y a de la confiance entre les gens et qu'on a un projet commun, a priori, on avance ensemble. C'est comme ça qu'on a fait cette pièce de théâtre, par exemple. On s'est pas dit, il faut que tu apprennes plus de textes ou il faut que j'écrive plus. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un projet commun et qu'on partage des valeurs, a priori, on peut se faire confiance et avancer ensemble.
Vous, Paul Éloi, vous avez essayé de l'influencer pendant l'écriture ? Parce que tout à l'heure, il nous a expliqué qu'il pensait un peu à vous. Est-ce que vous alliez voir le texte en disant « ça, j'aime pas, écris ça autrement ». Est-ce que quand on sait que quelqu'un écrit pour vous, on se dit ben, « peut-être un peu essayer de l'influencer de... ». Pas forcément négativement, hein. Je ne veux pas mettre de tension entre vous.
Mais justement, en fait, on était complètement sûr. On savait que déjà le processus d'écriture qui s'est fait pendant toute l'année, j'y ai assisté au fur et à mesure de la création Samuel écrivait des scènes et en fait, il nous envoyait, je les lisais, je faisais mes retours et tout ça. Et évidemment, tout ça, on l'a fait ensemble. Et en plus de ça, on a fait même mieux encore, on a fait de l'écriture plateau. C'est-à-dire qu'on a fait des improvisations sur des thèmes. Et il a gardé des phrases à moi, c'est génial.
Donc, j'ai compris que la fin du spectacle avait été écrite en partie comme ça.
Tout à fait. En fait, il y a des choses qui sont sorties, des improvisations avec les petits frères que j'ai gardées, des petits mots assez géniaux. Par exemple, on parle de la salle de sport et puis il y a un petit frère qui dit « j'ai eu l'impression de perdre les pédales » et puis je trouvais ça tellement beau que je l'ai gardé. Mais il y a plein de petites choses chez les petits frères, des choses très techniques. Après, par moment, on a juste écrit des trames de scènes qui ont été improvisées au plateau, puis que j'ai réécrites et enfin qu'on a rejouées. Et ainsi de suite, le texte s'est affiné au fur et à mesure. Donc, ça a été un processus vraiment collaboratif.
Je vois le temps qui passe et je ne voudrais pas que cette émission se termine sans qu'on parle, parce que là, on parle beaucoup de la société. Il y a des scènes récurrentes et il y en a une qui est particulièrement émouvante. C'est quand Paul Éloi rencontre son père. Comment vous est venue cette idée de créer cette scène assez répétitive ?
Le personnage est forcément dans le monde et à fond. Donc, il manque de recul. Et je cherchais un levier de quelqu'un qui lui demande de temps en temps, mais pourquoi faire ? Pourquoi tu fais tout ça ?
Et donc son père est là.
Et son père, c'est la conscience un peu. Son père, c'est à la fois le dernier lien inutile qu'il a dans sa vie. Et quand je dis inutile, je trouve que c'est beau parce que le mot inutile est devenu péjoratif. Mais c'est beau de faire des choses gratuitement. Et c'est aussi le seul lien qu'il a où de temps en temps, on l'interroge et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais ?
Après, là, vous allez jouer jusqu'à début octobre. Après, la pièce va tourner ou pas encore ? Vous ne savez pas ? Vous espérez ?
On l'espère en tout cas parce qu'on a des salles quasiment pleines chaque soir ou pleines chaque soir et on se dit que ce spectacle mérite une longue vie. Voilà.
En tout cas, on a envie.
Vous, Paul Éloi, vous avez envie de continuer ce spectacle ? Oui. Vous avez d'autres projets sinon en attendant ?
Oui, avec la compagnie On le trouve justement, on a trois projets en préparation. Voilà, mais c'est pour les 5-6 années à venir. Donc, on fait des projets... C'est souvent à long terme un petit peu au théâtre, ça met du temps les processus.
Mais oui. Je vous souhaite à tous les deux de faire encore beaucoup de belles choses gratuites. Alors merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Vous venez d'écouter La Relève, une émission proposée et présentée par Christophe avec à la réalisation Antonin. Comme l'an dernier, vous pourrez retrouver si j'ai le temps l'émission sur la page Facebook de La Relève Radio Campus Paris ou sur le site de Radio Campus Paris rubrique La Relève. Merci de nous avoir écoutés et à dans 335 heures. D'ici là, restez à l'écoute de la nouvelle grille de Radio Campus Paris. Merci beaucoup, au revoir.
Ça a été un processus vraiment collaboratif.
Je vois le temps qui passe et je ne voudrais pas que cette émission se termine sans qu'on parle, parce que là on parle beaucoup de la société. Il y a des scènes récurrentes et il y en a une qui est particulièrement émouvante. C'est quand Paul Éloi rencontre son père. Comment vous est venue cette idée de créer cette scène assez répétitive ?
Le personnage est forcément dans le monde et à fond, donc il manque de recul. Et je cherchais un levier de quelqu'un qui lui demande de temps en temps, mais... pourquoi faire ? Pourquoi tu fais tout ça ?
Et donc son père est là.
Et son père, c'est la conscience un peu. Son père, c'est à la fois le dernier lien inutile qu'il a dans sa vie. Et quand je dis inutile, je trouve que c'est beau parce que le mot inutile est devenu péjoratif. Mais c'est beau de faire des choses gratuitement. Et c'est aussi le seul lien qu'il a où de temps en temps, on l'interroge et on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais ?»
Après, là, vous allez jouer jusqu'à début octobre. Après, la pièce va tourner ou pas encore? Vous ne savez pas? Vous espérez?
On l'espère en tout cas, parce qu'on a des salles quasiment pleines chaque soir ou pleines chaque soir. Et on se dit que ce spectacle mérite une longue vie. Voilà.
En tout cas, on a envie.
Vous, Paul Éloi, vous avez envie de continuer ce spectacle? Oui. Vous avez d'autres projets sinon en attendant?
Oui, avec la compagnie On le trouve, justement, on a trois projets en préparation. Voilà, mais c'est pour les 5-6 années à venir. Donc, on fait des projets. C'est souvent à long terme un petit peu au théâtre, ça met du temps, les processus.
Mais oui. Je vous souhaite à tous les deux de faire encore beaucoup de belles choses gratuites. Alors merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Vous venez d'écouter La Relève, une émission proposée et présentée par Christophe avec à la réalisation Antonin. Comme l'an dernier, vous pourrez retrouver, si j'ai le temps, l'émission sur la page Facebook de La Relève Radio Campus Paris ou sur le site de Radio Campus Paris rubrique La Relève. Merci de nous avoir écoutés et à dans 335 heures. D'ici là, restez à l'écoute de la nouvelle grille de Radio Campus Paris. Merci beaucoup. Au revoir.